7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on regarde dans notre assiette, on parle d'alimentation biologique et il y a déjà une ambiance dans le studio. La demande de produits bio ne cesse de croître, mais le consommateur sait-il vraiment comment sont produits ces aliments désormais dans leur phase industrielle? Eh bien, c'est finalement une question qui émerge tout juste pour le grand public et c'est tout le mérite de votre livre, Frédéric Danhé. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de l'environnement, chroniqueur. Vous avez déjà écrit plusieurs ouvrages sur les sols, la transition écologique. Vous venez de publier Le bio au risque de se perdre, dans lequel vous décrivez des fraises espagnoles bio sous serre qui poussent hors sol, nourries aux déchets de betteraves importés, mais qui répondent bien sûr au cahier des charges et des labels, ou des champs bio en Ukraine de 20 km, donc il n'y a plus de haies, hein, pour ceux qui savent à quoi servent les haies dans les champs.
Trop de labour.
Finalement, assez loin tout ça d'une agriculture raisonnable, locale, idéale pour la planète. Alors le bio est-il arrivé à son paradoxe le plus cruel? Plus on en demande, moins il est bio. On va en discuter également avec vous, Benoît Biteau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paysan agronome, c'est comme ça que vous aimez vous définir. Mmh. En gros, vous produisez de la viande, du lait, des céréales, des légumineuses. Vous êtes aussi un élu local au conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Et vous publiez « Paysans résistants », dans lequel vous décrivez la transformation de votre ferme, héritée de votre père. Hein. Beaucoup d'agriculteurs sont agriculteurs de père en fils, d'abord parce qu'il faut avoir de la terre. Et à l'époque, votre père cultivait une agriculture, ce qu'on appelait intensive, productiviste.
Ah oui, complètement. Il l'assume. Hein. Il fait partie de cette génération qui, après la guerre, a dû s'engager dans produire plus pour nourrir l'Europe, et il assume ça complètement, mais il ne connaissait pas à cette époque, c'est pour ça que je fais le procès de personne, les dégâts collatéraux de ce modèle agricole-là. Aujourd'hui, la question à se poser, c'est maintenant qu'on sait les dégâts collatéraux, les effets secondaires, est-ce qu'on peut continuer comme ça? Voilà, c'est ça le sujet. Juste une petite précision, héritage, ça aurait été bien, sauf que je suis propriétaire de 70 arts, donc tout le reste c'est en location, ouais. Voilà, donc c'est
pour vous avez hérité des dettes.
j'ai dû emprunter beaucoup, effectivement, pour reprendre la structure familiale.
Bina Paradin est également avec nous, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes fondatrice de Bindi, c'est une marque de produits végétariens bio avec des producteurs en direct, donc vous faites partie de ceux qui distribue, hein, c'est distribué dans des magasins bio et également sur internet.
Voilà, hein. je transforme et je distribue.
Et vous nous appelez bien évidemment si vous le souhaitez prendre part à ce débat sur les produits bio, 33 1 84 22 71 71, et vos messages sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et sur Facebook, bah évidemment, on a beaucoup de voisins qui nous disent que chez eux en Afrique, le bio, c'est la contrainte du pauvre dans une agriculture qui est peu modernisée. Hein, quand on n'a pas d'argent pour acheter des intrants, on risque pas d'en acheter. Et puis, il y a aussi les consommateurs qui doutent, comme chez nous. Un internaute à Yaoundé nous dit « La recherche du bio, c'est le désir de manger sain. Mais ça fait aussi que on se fait arnaquer l'estomac. On nous vend du pas bio au prix du bio. C'est un marché qui profite donc aux agriculteurs et aux commerçants, mais pas aux consommateurs. » Salut, est à Thiès, tout près de Dakar. On se fait berner par le bio à travers les publicités mensongères. La quasi-totalité des produits vendus comme du bio est infectée par des insecticides et d'autres produits chimiques nuisibles à la santé. Ou encore Babacar, qui est à Dakar, toujours au Sénégal. Le bio, c'est l'avenir. Il faut le préciser, le Sénégal, en tout cas, tout un mouvement de consommer local pour préserver son agriculture face aux importations à prix cassé. C'est peut-être d'ailleurs là le vrai débat sur le continent africain. C'est plutôt la souveraineté alimentaire que la préoccupation du bio. Voilà, appelez-nous en tout cas au 33 1 84 22 71 71.
Chez nous, tout est bio, 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 bio. Le sel, il est bio, 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 bio. La poêle, elle est bio, 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 bio. Y a rien qui est pas bio. Tout le monde, il est bio.
Voilà, c'est la signature de notre réalisateur. Romain Dubrac, Frédéric Danhé. Le salon de l'agriculture s'est achevé dimanche. On n'a jamais autant parlé de bio dans les médias. Vous êtes d'ailleurs les uns et les autres partout dans les médias, à la télé, à la radio, dans les journaux. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des consommateurs depuis quelques mois?
Les consommateurs ont la trouille. Alors c'est un avantage et un inconvénient, ils ont la trouille, du coup ils se reportent sur ce qui symbolise une forme de pureté, une espèce de chapelle de repli qui est le bio. Et du coup le bio, on lui prête beaucoup de vertus qu'il n'a pas forcément, en tout cas qui ne peuvent pas se réduire à ça. On va vers le bio parce qu'il a une promesse de santé, parce que le bio est exempt de pesticides. Or, on ne cesse de faire le lien entre pesticides et cancer, maladies neurodégénératives, obésité, diabète de type 2. Et puis en plus, on voit bien avec Lactalis que même l'industrie qui n'a cessé de poursuivre les petits artisans qui fabriquaient du lait cru, qui fabriquaient des produits à partir de lait cru.
Lactalis, le scandale du lait poudre, hein, pour les bébés.
Le géant du lait dans le monde, qui n'avait cessé auparavant de dénoncer la faible sécurité sanitaire des produits à base de lait cru, l'arroseur se retrouve arrosé et Lactalis, sa promesse de santé, sa promesse de contrôle tombe à plat. Et puis en plus, les consommateurs ont bien vu avec les états généraux de l'alimentation que la grande distribution perdait son sang-froid parce qu'elle sent que les clients la fuient et que le monde est en train de changer. Donc les gens se replient vers ce qui les rassure. Aujourd'hui, ce qui les rassure le plus, c'est le bio sans trop savoir ce qu'il y a derrière. Et derrière le bio, il y a d'autres labels. Globalement, les gens sont rassurés par ce dont ils connaissent l'origine.
Ouais, vous parliez de la grande distribution. Les grandes enseignes de supermarchés contrôlent quand même 42% de la vente de ces produits biologiques. On va en reparler. Mais aujourd'hui, dans la tête des consommateurs, qu'est-ce qui prime? La santé, la planète, le goût, c'est quoi les vraies motivations?
La santé, les études d'opinion, il y a deux choses. Dans les études d'opinion,
donc
les
gens... Donc c'est tout pour ma pomme, en fait. Hein,
c'est tout pour ma pomme, c'est très nombril. C'est la santé. Mais du coup, derrière la santé, l'industrie est capable de produire... si on réduit les aliments à des produits de santé, on n'a pas compris grand-chose à ce que c'est que l'alimentation.
Mais en même temps, Benoît Biteau, on a l'impression que les agriculteurs sont de nouveau populaires en France, non?
Alors là, je suis pas d'accord.
Figure de l'agriculture.
Je suis pas d'accord. Enfin, moi, si je prends mon cas particulier, moi, je rencontre beaucoup de gens qui viennent de la ville, les citadins, les urbains, qui ont choisi de vivre dans le monde rural et qui viennent me voir en disant, nous, on est venus ici pour protéger nos enfants des pollutions urbaines et citadines, et on se retrouve dans un milieu qui est encore plus pollué que celui dont on vient. Donc aujourd'hui, je pense qu'au contraire, la rupture avec le monde agricole, elle est de plus en plus franche, parce que, pour plein de raisons, mais Frédéric a évoqué l'aspect santé, c'est fondamental, mais je pense qu'aussi le focus qui est fait depuis quelques années sur la problématique climatique est aussi anxiogène, et les gens ils se rendent bien compte qu'il y a un modèle agricole qui aujourd'hui continue de creuser notre tombe autour de la problématique climatique, pardon, alors que quand on fait un peu d'agronomie, et qu'on porte un autre développement agricole, on s'inscrit justement dans d'autres logiques par rapport au climat et par rapport à la certification bio. Moi, ce que je dis, et c'est ma propre expérience, qui d'ailleurs je rebondis sur les différents messages des auditeurs, l'Afrique m'a beaucoup inspiré moi pour développer mon modèle sur ma propre structure, et ce qui m'intéresse moi qui suis agronome, c'est d'abord de faire de l'agronomie, et la certification bio devient une conséquence, et là du coup la bio se perd pas justement.
Ouais. Quand vous disiez l'Afrique m'a beaucoup inspiré pour transformer mon modèle d'agriculture familiale.
Tout simplement parce que les écosystèmes africains, si on les matraque avec les modèles agricoles qu'on a développés dans le nord de la planète, à grands coups de pesticides, avec des cultures pures, avec des engrais de synthèse et nécessitant beaucoup d'irrigation, ça ne marche pas. Et ce qu'on constate quand on...
Sur le continent africain.
Oui, sur le continent africain.
Parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens pour réaliser cette agriculture-là. Elle est appauvrissante.
Les auditeurs de Thiès et tout ça, moi, c'est des secteurs que je connais bien. Et ce qu'on constate, c'est que sur ces écosystèmes fragiles, qui sont encore plus fragilisés par le modèle intensif, quand on revient aux fondamentaux de l'agronomie, c'est-à-dire qu'on plante des arbres en système agroforestier, et qu'on produit dans la strate arborée, qu'on plante des arbustes sous les arbres, qu'on produit en strate arbustive, qu'on produit des plantes annuelles comme du mil ou du sorgho en strate herbacée sous les arbres et sous les arbustes, et qu'on produit aussi en strate souterraine des arachides par exemple ou du manioc, on se rend compte qu'on amplifie, on multiplie par 4 la productivité de ces espaces-là avec beaucoup moins de ressources parce qu'on a des plantes qui s'accompagnent entre elles. C'est la mode, on parle de la communication des arbres aujourd'hui, mais les plantes communiquent aussi entre elles, sont complémentaires, et donc on amplifie la productivité hectare, et c'est redoutable dans des zones où justement on recherche la souveraineté alimentaire.
Alors, on le disait, le bio est particulièrement à la mode dans les pays européens et d'ailleurs aux États-Unis aussi. Bina Paradin, en France, 7 consommateurs sur 10 consomment régulièrement des produits bio, enfin, portant le label AB. En même temps, on a du mal à le croire quand on voit que le revenu moyen d'un Français, c'est 1600 euros par mois.
Alors, effectivement, aujourd'hui, il y a un vrai engouement pour le bio. Et je pense que cette problématique de revenus, il faut aussi la regarder un peu différemment, parce que très souvent, quand on consomme bio, alors du coup, dans les chiffres que vous prenez, il y a le 70% qui est la consommation occasionnelle, qui est les gens qui vont acheter une fois par mois un produit bio, ce qui n'est pas pour moi consommer bio, manger bio au quotidien. Mais aujourd'hui, manger bio, ce n'est pas que un luxe pour Bobo, comme on l'entend souvent. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être accessible à tous, puisque quand on mange bio, on a en général une démarche qui est différente. On va réduire la part de viande ou de poisson de son assiette. On va en manger moins régulièrement, ce qui fait qu'une assiette de végétaux de grande qualité, qui est bio, qui est dans le bio et la bio, peut être
manger
un
des
repas
produits,
très accessible.
Manger des produits moins chers, mais de meilleure qualité.
Exactement.
Ouais. Pour vous, Frédéric Danhé, en gros, vous dites dans votre livre, y a du bio, enfin, il y a bio et bio. Ce qui répond aux exigences d'un label, qui est un label d'ailleurs assez strict en France par rapport à d'autres
strict,
normes.
Il est surtout strict au niveau des intrants chimiques, des pesticides.
Alors, c'est quoi ces deux camps qui font tous du bio? Pour vous, en fait.
Non, alors,
c'est quoi les dysfonctionnements dans la façon de produire des aliments biologiques?
Le dysfonctionnement, c'est quand on résume le bio à son cahier des charges européen, qui finalement n'est restrictif que sur les intrants chimiques, sur les engrais, sur les pesticides.
Et les OGM.
Et les OGM, voilà. Il n'est restrictif que là-dessus. Mais à partir de là, finalement, on résume le bio à un itinéraire technique et à un contrôle des molécules qui rentrent. Et à partir de là, on peut faire du bio à très très grande échelle comme en Ukraine, on peut faire du bio à très très grande échelle comme en Chine, en oubliant que la philosophie du bio, c'est de respecter toute la chaîne alimentaire, respecter le producteur, le consommateur, et entre les deux, respecter un éco-agro-système.
Donnez-nous des exemples de dysfonctionnement qui se retrouvent dans notre assiette avec ce fameux label AB.
Par exemple, tout ce qui pousse sous serre, par exemple, un fruit et légumes.
On parlait des fraises espagnoles. Laurie a de la betterave bio importée.
Le bio, en théorie, les fruits, les légumes, etc., doivent être. On doit atteindre une forme d'autonomie dans la production, c'est-à-dire que la culture doit être. Ce qu'on cultive doit être alimenté, doit être nourri par le fumier de l'élevage d'à côté, ou pas très loin. Quand on est obligé d'importer de la betterave du nord de la France pour nourrir des fraises qui sont cultivées hors sol, qui sont cultivées en plus hors saison, donc avec une débauche d'énergie, et en plus cueillies par des semi-esclaves marocains, on n'est plus dans le bio, on est dans le respect de rien du tout. Effectivement, on respecte un cahier des charges, mais on ne respecte pas la philosophie de la bio, qui est de produire localement, de façon à ce que le paysan, au moins lui, soit correctement rémunéré. Là, ce n'est pas le cas du tout. Là, on est sur des groupes financiers, on est sur des groupes industriels. On n'a rien changé au système.
L'augmentation de la demande des consommateurs, est-ce que dans un pays comme la France, on est capable de répondre? Est-ce que la production peut répondre à l'augmentation de la demande des consommateurs?
Là, encore une fois, il s'agit d'une question de volonté.
Bien sûr.
Enfin, pour prolonger ce que disait Frédéric sur le bio... vertueux ou moins vertueux, tu as évoqué tout à l'heure la question du labour et donc ça pose la question de la vie des sols. Claude Aubert, il y a 40 ans, nous expliquait que le principe fondamental de la bio, c'était préserver les sols pour que les sols puissent nourrir les plantes.
Ça devrait être la priorité.
Voilà.
Ouais.
Quand vous parlez des circuits courts, en réalité aujourd'hui, ce que consomment les consommateurs qui achètent des produits avec un label bio AB, Bina Paradin, ce qu'on trouve dans les boutiques, que ce soit les supermarchés d'ailleurs ou les boutiques bio, est-ce que ce sont essentiellement des aliments importés qui viennent
non.
de pays relativement
non.
lointains
70%
ou pas?
Ça vient de France.
Exactement.
Pour les
aujourd'hui, l'essentiel du bio qu'on trouve sur le territoire français est français. Et du coup, il y a une capacité à manger bio et local. Et
donc, globalement, aujourd'hui, le consommateur européen n'est pas menacé par le bio chinois.
Dans les pays où il y a une vraie production, il y a une vraie culture alimentaire, une vraie culture agricole et une politique de contrôle efficace, effectivement comme en France, comme en Allemagne, comme dans les pays d'Europe du Nord. Oui, le bio est à peu près conforme à sa philosophie, mais pour les autres pays, et d'autant plus à mesure que la consommation va augmenter alors que la production ne suit pas, on va faire appel de plus en plus aux importations et donc statistiquement, ne serait-ce que ça, on aura des fraudes.
Justement, forcément. On va en parler des pays en dehors de la France juste après, si belle chez 7 milliards de voisins, l'alimentation biologique, le frais, le vrai bio, le faux bio. Alors on remet en question le label de l'alimentation biologique chez 7 milliards de voisins. Lay your head where my heart used to be, on the earth above me. Lay down in the green grass. Remember when you loved me. Come closer, don't be shy. Stand beneath the rainy sky. The moon is over the rise. Think of me as a train goes by. Clear the tissues and brambles. Whisper, didn't he ramble? Now there's a bubble of me, and it's floating in thee. Stand in the shade of me, things are not made of me. The weather vane will say it smells like rain today. God took the stars and he tossed them. Can't tell the birds from the blossoms. He'll never be free of me. He'll make a tree. Greengrass, c'est si belle chez 7 milliards de voisins. Le bio au risque de se perdre, c'est ce que vous publiez, Frédéric Dan. Et est-ce qu'aujourd'hui, alors on parlait de la France, mais évidemment, il y a une partie des produits bio qui sont importés en France, parce que en France, on a grosso modo 6%, 6,5% des surfaces cultivées qui sont cultivées en bio.
Oui, 6,5%, on doit être à 7%.
Le ministre de l'Agriculture s'engage à 8%, ça fait plusieurs années qu'on s'engage. D'accord, voilà, vous parlez au moins très cash.
On y sera forcément.
Quels sont les pays à imiter ou à fuir pour leur modèle à l'heure actuelle? Pendant la chanson Bina Parada, vous nous parliez de l'Inde, vous êtes des ancêtres d'Inde, vous vous fournissez d'ailleurs pour votre marque en partie sur le sous-continent.
Oui, alors en fait nous on a des produits à base de céréales et de légumineuses qu'on achète en France, mais qu'on va assaisonner avec des parfums d'herbes, d'épices, qui vont notamment pour les épices venir d'Inde, parce que c'est le seul endroit où ça pousse.
Ça c'est pas nouveau, c'est pas le bio qui a lancé ça.
Non du tout, et par contre ce qu'on constate c'est qu'il y a effectivement des modèles agricoles extrêmement différents. Si je prends un exemple concret, le poivre ça pousse dans un jardin d'épices traditionnellement, donc un jardin dans lequel il va y avoir des arbres, des arbustes, des racines aussi, et qui va fournir à la fois pour l'agriculture d'exportation d'épices, mais qui va aussi fournir le paysan localement pour qu'il ait sa nourriture tous les jours dans son champ, ce qui paraît assez simple mais qui est en train de se perdre, parce qu'aujourd'hui il y a aussi des modèles d'industrie, de modèles industriels bio dans lequel le poivre va être planté en quasi monoculture sur des terrains dans lesquels il n'y a plus aucune diversité et plus aucune agriculture vivrière.
Ces deux poivres sont bio tous les deux.
Et tous les deux bio, tous les deux sont labellisés exactement pareil, ont exactement les mêmes critères. Et donc nous, le travail qu'on fait en tant que transformateur, c'est de bien connaître nos filières, de bien connaître les gens avec lesquels on travaille et de choisir la bio par rapport au bio.
Vous imaginez dans quelle inquiétude on place le consommateur là, avec ce genre d'émission, Benoît Biteau? Comment s'y retrouver?
C'est ça, mais c'est pour ça qu'il faut peut-être essayer de tirer vers le haut tout ça.
On se disait, ça y est, on a un label, il suffit d'acheter, de mettre un peu plus cher. Eh ben non.
C'est pas forcément. Enfin, moi, j'ai du mal avec le mot label. Pour moi, c'est en France, en tout cas, c'est un certificat, c'est un signe officiel de qualité. Donc, c'est quand même assez rigoureusement contrôlé. Le rôle des politiques publiques, et vous avez tout à l'heure évoqué les promesses de ce gouvernement, est fondamental.
On va en parler, notamment règlements de l'Union européenne et des labels. Vous restez avec nous, on se retrouve juste après le flash. Et bien sûr, vous pouvez participer à l'émission, les voisins, au 33 1 84 22 71 71. On interroge l'alimentation biologique, les produits bio dans nos assiettes. On se retrouve dans 3 minutes après le flash.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. 7 milliards de voisins, le bio va-t-il tuer le bio? Voilà, c'est la question qu'on se pose avec votre livre Frédéric Danhay, Le bio risque de se perdre. Benoît Biteau, vous êtes paysan résistant, c'est le titre de votre livre, vous êtes éleveur et agriculteur. Et Bina Paradin, vous êtes fondatrice d'une marque de produits végétariens bio, Bindi, avec des producteurs en direct. Justement, on parlait des labels. Alors Frédéric Danhay, histoire d'inquiéter un peu plus nos consommateurs, il y a le fameux label AB, mais c'est vrai que quand on va dans un magasin, que ce soit en général un supermarché, un hypermarché, on peut trouver sur les étiquettes, alors là vous dressez la liste de tout ce qu'on peut trouver comme symbole, non pas label, mais terroir, paysan, fermier, à la louche, c'est pour les produits laitiers, à la baratte, au chaudron, cuit dans son moule, au torchon, à la main, au feu de bois, à la ferme, à l'herbe, à l'ancienne. Voilà.
Oui, oui, il y en a d'autres, hein, je me suis amusé, effectivement. Bah, tout ce qui rassure, en fait, tout ce qui... On reste un...
Ça s'appelle du marketing, ça. Donc,
oui, mais qui se fonde sur vraiment une mémoire affective très forte en France. On est un pays de paysans, on a toujours été une nation de paysans, et tout ce qui renvoie à des origines prétendues déclenche l'achat, et on le voit bien avec les marques de distributeurs, un peu traditionnelles, ce sont celles qui marchent le plus et qui dégagent le plus de marge pour la grande distribution.
Alors, il y a d'un côté le marketing alimentaire, ouais. De l'autre, les réglementations européennes. Tout de suite, reportage d'Alice Milo en Normandie, dans le département de la Manche, à Fervache. Christophe Gosselin est éleveur de porc avec son frère. Il a repris l'exploitation de ses parents convertis au bio il y a 8 ans. Et justement, il s'inquiète de l'évolution de la réglementation européenne concernant les labels bio.
Donc voilà, ça, ce sont des porcs en engraissement. Ceux-là, ils ont 4 mois et demi. Là, ils sont en train de jouer, donc ils font du bruit, une concurrence. Donc, dans notre système d'alimentation, ils mangent principalement de l'orge, de la farine de blé, de la farine de triticale, de la farine de pois et de la farine de févrole.
Tout ça bio, bien entendu.
Évidemment, tout est mélangé pour avoir de la viande de bonne qualité, avec un taux de muscle satisfaisant, pas trop gras, pas trop maigre. Et puis, une qualité gustative, évidemment... puisqu'on travaille aussi sur la génétique pour avoir une bonne qualité gustative. Moi, j'aspire à ce que le porc bio se développe, mais le but n'est pas d'arriver à 100% de porc bio sur le volume produit aujourd'hui. On produit, à mon avis, trop de porc en France aujourd'hui, puisqu'on est obligé d'en exporter pour équilibrer le marché. Et il y a une forte demande de viande de porc bio, donc il faut qu'il y ait des jeunes qui s'installent, il faut convertir des bâtiments. Mais j'ai une inquiétude, c'est que sur le plan européen, puisqu'aujourd'hui l'agriculture biologique est soumise à un cahier des charges européen depuis 2009, et mon inquiétude c'est qu'il y aurait une volonté de l'Europe de modifier à nouveau le cahier des charges pour l'assouplir. Et ça c'est pour moi une véritable inquiétude, et pour une grande partie des paysans bio français c'est une véritable inquiétude.
Ça veut dire être moins exigeant sur le bio en fait.
Voilà, de faire un bio light, de faire un bio où pourquoi pas on pourrait introduire un pourcentage d'OGM, ou pourquoi pas on pourrait introduire un pourcentage de pesticides, ou voilà. Il y a des choses, on entend tout et n'importe quoi, ça génère de l'inquiétude. Moi j'ai pas envie de ça, j'ai envie justement que le cahier des charges reste au moins ce qu'il est, sinon se durcisse. Sauf que si on allège le cahier des charges, peut-être qu'ici, on a 40 porcs et on aurait le droit d'en mettre 80. Or, on voit apparaître aujourd'hui des poulaillers industriels. Des poulaillers, là, il y a un voisin qui a un projet de 6000 poules pondeuses. Le champ est nu aujourd'hui, il va monter 2 bâtiments avec 6000 poules pondeuses en bio. Et c'est poussé par une grande coopérative agricole. Et ça, ça m'effraie parce que le gars, il va vendre des œufs bio au même titre que mon pote qui a 250 poules en plein champ. Voilà, il les fait pâturer, il leur met de l'herbe régulièrement. Voilà, il a une culture de son élevage de poules pondeuses qui est complètement différente du gars qui va monter 2 bâtiments dans un grand champ et puis mettre des poules pondeuses là-dedans.
Vous craignez l'industrialisation du bio, en fait.
Exactement, exactement. Et ça va être à nous, acteurs de la bio, de démontrer aux consommateurs soit par de nouvelles marques, soit par de nouvelles démarques, soit par, par une nouvelle démarche.
Des labels, par exemple
Ouais, mais le logo AB nous plaît bien quand même. Il va falloir qu'on soit en mesure de démontrer qu'on ne fait pas tous le même boulot et qu'on ne fait pas tous le même produit. Parce que justement, si on industrialise la bio, on va détériorer la qualité du produit fini. Et ça va encore une fois être aux dépens du consommateur qui va se faire léser dans la démarche. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. Et j'ai envie que le consommateur ait confiance dans les producteurs et ne perde pas confiance dans la bio.
Benoît Biteau, vous publiez Paysans résistants, vous produisez de la viande, du lait, des céréales, des légumineuses. Vous vous reconnaissez dans ce témoignage ?
Ah oui, il a complètement...
Vous êtes en bio ?
Ah oui, il a complètement raison, mais ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la bio... ça ne doit pas être une finalité, c'est-à-dire qu'on doit d'abord réfléchir à ce qui se passe autour de nos gestes de production et du coup la certification bio devient une conséquence et il a complètement raison.
Mais c'est-à-dire comment que... le consommateur s'y retrouve ? Vous vous rendez compte que vous êtes en train là de perturber le message et l'injonction qui a été faite pendant des années aux consommateurs qui est de dire il faut manger moins de pesticides parce que c'est pas bon pour la planète, c'est pas bon pour la santé. Et là, on est en train d'expliquer aux consommateurs que c'est beaucoup plus compliqué, que derrière il y a une philosophie de l'agriculture, d'une agriculture différente. Est-ce que c'est audible ? Et est-ce que par rapport au label, est-ce qu'on va s'orienter dans un dédale de labels ?
Mais j'insiste, bio, c'est pas un label, c'est un signe officiel de qualité, et donc ça se démarque d'un label. Il n'y en a que 3 en France, donc déjà, ça donne une garantie supplémentaire. Moi, j'ai beaucoup de mal, quand on parle d'agriculture biologique, avec le mot label. C'est pas un label, c'est un signe officiel de qualité, donc ça se démarque déjà de tous les labels, justement. Et donc là, on a des garanties. Et où l'agriculteur, le témoignage de cet agriculteur est intéressant, c'est qu'on doit amplifier les garanties qu'on donne derrière un signe officiel de qualité, on doit amplifier les garanties et élargir le débat à la simple nourriture et se projeter dans une approche globale, c'est-à-dire une approche où l'agriculture qu'on pratique quand on a la certification AB est une agriculture qui préserve les équilibres, qui préserve les ressources et l'eau en particulier, parce que quand l'eau est souillée, c'est encore nous qui payons la réparation de l'eau souillée, qui s'inquiète des biodiversités, qu'elles soient sauvages ou domestiques, et moi j'élève des races locales, c'est pas par hasard, c'est parce que d'abord c'est bien adapté à une zone de production bien précise.
Pour le porc,
pour le porc, bien sûr, on a perdu 90% de la biodiversité domestique qu'on utilisait en agriculture en un siècle, mais partout, dans toutes les petites zones agricoles, il y avait sa propre variété, sa propre race. Il y a le sujet du climat, et donc ça aussi, c'est une approche globale qu'il faut intégrer. Et quand on pratique...
Tout ça n'est pas du tout dans la réglementation actuelle pour le label AB, qui en plus va s'assouplir avec l'harmonie européenne.
Faut savoir que ça démarre d'une bonne intention. Pourquoi ? Parce qu'il y a des agriculteurs bio qui se sont retrouvés avec leur habilitation, leur label. Alors, c'est pas le label. Le
certificat.
Leur certification leur avait été retirée parce qu'on avait décelé des traces de produits chimiques sur leurs produits, non pas à cause d'un usage de produits chimiques, mais dans le camion de transport, il restait des traces de P. Voilà.
Et donc injuste. Mais là, l'harmonisation européenne, est-ce qu'elle ne prévoit pas justement un assouplissement des contrôles avec moins de visites, la fin des visites annuelles notamment, à partir du moment où ils sont certifiés, on les embête plus pendant
le but
deux
c'est
ans,
de répondre à la demande en abaissant les critères, et ça derrière vous avez la grande distribution, plus la grande distribution que l'agroalimentaire, parce que la grande distribution veut en faire le produit conventionnel de demain, c'est aussi simple que ça. Après effectivement pour le consommateur c'est difficile de s'y retrouver.
Si l'harmonisation européenne par exemple permet au label AB l'autorisation de la culture hors sol, les fameuses
c'est un non-sens sur la philosophie de la bio, mais finalement c'est assez cohérent avec ce qu'est un cahier des charges qui prétend résumer une conduite agricole à quelques chiffres. C'est comme résumer l'écologie au seul carbone. Dès lors qu'on résume à quelques chiffres, en termes d'espace par exemple pour les poulets, ou en termes de quantité d'intrants ajoutés à l'alimentation des cochons, et ben on peut tout à fait avoir un élevage industriel. Et d'ailleurs, cet élevage industriel, si vous le poussez jusqu'au bout, au-delà d'un certain seuil, vous avez des taux à la fin d'émissions de CO2, d'azote, qui sont très conformes à la réglementation. Donc, en fait, si vous résumez tout à quelques chiffres, vous pouvez tout à fait pousser à l'industrialisation.
Et qui
totalement, et cette
part. Juste, qui est derrière l'allègement du... C'est les gens qui partent au...
Du cahier des charges européen.
Bien sûr, il y a de l'opportunité, c'est-à-dire que le marché de la bio, il est exponentiel, et donc ça n'a pas échappé à ceux qui sont sur le marché de l'alimentation, et donc ces gens-là disent, nous, c'est un marché qu'on veut reprendre, et donc c'est de l'opportunisme, et pour qu'ils arrivent à amplifier la production pour satisfaire la part de marché, ils sont tentés par l'assouplissement, et il y a ceux aussi qui aujourd'hui...
En même temps, cet assouplissement, ça veut dire quand même que pour la planète, on va utiliser moins de pesticides dans l'agriculture.
Mais c'est ça le sujet, justement. C'est ça le sujet.
C'est quand même pas si mauvais.
C'est ça le sujet. Mais oui, mais
c'est pas suffisant, vous dites.
Mais c'est pas ça, c'est qu'on met en péril l'économie des pesticides et des engrais de synthèse. C'est-à-dire que ces gens-là, avant qu'on les tue, ils vont bouger un petit moment. Et donc, ces gens-là qui aujourd'hui occupent, font des chiffres d'affaires colossaux en vendant des pesticides, des semences certifiées et des engrais de synthèse, si demain on passe avec la bio, celle que nous on défend avec Frédéric et ma voisine, celle qui justement fait référence à une approche globale, on n'a plus besoin des pesticides, on n'a plus besoin des semences certifiées, on n'a plus besoin des engrais de synthèse et on a encore moins besoin des OGM.
Donc on supprime quand même des emplois du côté de toute l'industrie des pesticides.
Mais on supprime pas des emplois puisque l'agriculture biologique fournit des emplois qui sont non délocalisables et qui proposent un retour à la terre. C'est merveilleux, le retour à la terre, et il y a de la demande en plus. Donc c'est une vraie politique de l'emploi, au contraire.
Binta Paradin veut s'exprimer.
Et cette cohérence, pour moi, elle doit aller jusqu'à l'assiette, hein, parce qu'on a beaucoup parlé de la production agricole, mais pour moi, dans la transformation aussi, il y a un vrai enjeu de faire de la vraie bio, puisque aujourd'hui, est-ce que mettre un label bio sur un produit qui est hyper gras, hyper sucré, hyper transformé, est-ce que ça a du sens ? Pour moi, non.
Aucun.
Vous restez avec nous, je donne le numéro de téléphone du Standard, on prend un auditeur juste après, Cana, Plantation, c'est le nom de la chanson, je redonne le numéro, 33 1 84 22 71 71.
J'ai des petits problèmes dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas? J'ai des petits problèmes dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté coco, coco ça pousse pas. Moi j'ai planté banane, banane ça pousse pas. J'ai de petits problèmes dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté légumes, légumes tout pas poussé. Moi j'ai planté de petits problèmes dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté tomates et concombres, concombres ça pousse pas. Alors moi j'ai planté bien à l'ombre, à l'ombre ça pousse toujours pas. J'ai de petits problèmes dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas? J'ai de petits problèmes dans ma plantation, pourquoi ça pousse pas?
Moi j'ai planté manioc,
manioc toujours pas poussé,
toujours pas poussé.
Alors moi j'ai planté tapioc,
tapioc toujours pas poussé,
toujours pas poussé.
Il a des petits problèmes dans sa plantation, Cana, chez 7 milliards de voisins. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On donne la parole à un consommateur qui a des problèmes avec son assiette. Bonjour Félicien, vous êtes en région parisienne.
Oui, bonjour, c'est ça, c'est Félicien Miloro, j'habite à Livry-Gargan.
Oui, on vous écoute.
Et donc, moi je suis parfois sceptique du mot bio, d'autant plus que je pense qu'il y a tout un mensonge entouré du mot bio. Et souvent aussi, il y a des gens mal intentionnés qui nous font avaler des engrais par cette façon-là. Et donc moi, en tant que consommateur, la question que je me pose, est-ce que nous sommes en vrai bio ou c'est une simple publicité pour pouvoir faire vendre ces dons on produit avec des engrais parfois, entre guillemets, cachés sous ces labels-là? La première question.
Oui, alors, sur cette première question, c'est vrai, ceci dit, que les agriculteurs, est-ce qu'il y a des certifications sur les intrants utilisés par les agriculteurs biologiques ?
Enfin, moi, je vais vous parler d'un cas très concret qui est mon cas de certification. Moi, j'ai 2 visites par an, donc ce n'est pas un label, j'insiste, c'est une certification qui est rigoureusement, étroitement contrôlée. Si vous achetez des produits bio en France, ce n'est pas contestable. Et donc, 2 fois par an, c'est échantillon de sol, échantillon des récoltes, et si dans ma récolte, et ça m'est déjà arrivé qu'un voisin pollue ma récolte, il y a une trace de pesticide, il y a une trace d'engrais de synthèse dans les produits ou dans les sols, ou une trace d'OGM, c'est simple, le produit il n'intègre pas la filière bio.
Vous ne pouvez pas le commercialiser
absolument
avec,
l'étiquette AB. L'exemple très concret, c'est qu'un voisin fait un désherbage sur une céréale voisine d'une parcelle de pois verts qui devait aller dans la filière de casserie bio, de pois verts cassés bio. Il y avait du vent, il y a eu une dérive, il m'a désherbé 2 hectares de pois. Moi, j'ai appelé mon certificateur, il est venu constater les dégâts, il a monté le dossier, on a donc
c'est
engagé...
C'est sympa les relations avec les voisins quand on est en agriculture bio.
Mais au moins, depuis, il me respecte. Et donc, du coup, le certificateur, il a monté la procédure, l'assurance a dû prendre en charge le dégât de la culture, la perte de la certification bio, parce que la parcelle a perdu sa certification bio, et a pris en charge la reconquête de la certification bio sur la parcelle que j'ai dû réengager dans une procédure de conversion. Donc, aujourd'hui, quand on achète du bio en France, c'est pas contestable. Après, effectivement, hors Europe, il peut y avoir des fluctuations du cahier des charges. Mais
Félicien, vous avez une première réponse à votre première question là-dessus.
Je complète juste pour dire qu'il y a un deuxième contrôle en aval. Parce que si moi j'achète les fameux pois cassés de Benoît et que je les mets dans un produit que je commercialise, je vais moi-même être contrôlé.
Pour le produit fini, pour la recette finie. Félicien.
Oui, et moi, je suis tout à fait d'accord avec le monsieur. Mais nous sommes aujourd'hui en Europe où les frontières sont ouvertes. Il y a des produits qui rentrent en France qui ne sont pas suffisamment, peut-être, bien contrôlés. Et quand on voit ces maisons qui s'ouvrent par-ci, par-là, des magasins intitulés bio, machin, tout ce qui suit, on a un sentiment de peur. Moi, ce que je veux, une forme de confiance vis-à-vis du consommateur que je suis. Parce que quand on dit contrôle, on sait très bien que le contrôle ne suffit pas aux petits magasins entourés dans Paris, même dans les banlieues. Les maisons s'ouvrent, mais à foison.
Non, mais vous parlez des produits transformés, c'est-à-dire est-ce que les produits transformés, qu'est-ce qu'il y a dedans et est-ce qu'il y a réellement
Est-ce que c'est vraiment du bio, est-ce que c'est du naturel qu'on nous vend? Est-ce que c'est des questions qui reviennent?
La défiance de Félicien quand on voit les prix qui sont pratiqués, elle est tout à fait légitime, en même temps,
Oui, mais enfin, en France, il peut être sûr. Enfin, vous pouvez être rassuré, Félicien, les produits sont contrôlés. C'est vraiment la seule certification qui exige autant des producteurs, des transformateurs.
C'est une des certifications les plus strictes en Europe. Oui. Sauf que d'ici 2021, qu'est-ce qui va se passer si cette...
C'est pas fait encore. C'est pas fait encore. Enfin, je veux dire, les contre-feux sont allumés pour qu'on préserve à minima ce cahier des charges-là. Et il y a même aussi des acteurs qui disent qu'il faut même durcir le cahier des charges pour que, justement, les inquiétudes que peuvent avoir des gens comme Félicien s'estompent. Hein. Donc,
cette inquiétude, on la retrouve ailleurs en Europe, des consommateurs qui pourraient peser sur un cahier des charges strict ou pas tellement, finalement
Ça, j'en sais rien. Le seul problème, c'est que si les consommateurs...
Aux États-Unis, par exemple, la certification bio, elle est beaucoup, beaucoup plus souple.
Elle est plus souple et en même temps, elle ne concerne qu'une très petite frange de la population. Vous savez, la population américaine, elle mange vraiment de la merde. Elle ne mange pas grand-chose de bon. Mais le problème, c'est que si le consommateur ne voit dans le bio qu'une promesse de santé, on va vers la catastrophe. Parce que dès lors qu'il y aura, avec l'augmentation du marché, statistiquement au moins un autre, il y aura un problème sur un produit alimentaire bio. Et là, tout risque de s'effondrer. Le commerce ne fonctionne, la certification, les labels ne fonctionnent que sur la confiance. La confiance pour être altérée d'un coup. On le voit avec Lactalis, ce que ça a donné. La confiance envers l'industrie s'est effondrée. La confiance envers le bio, résumée uniquement à la santé, pourrait s'effondrer. Mais c'est pour ça qu'il faut bien faire comprendre ce qu'on fait avec Benoît, que le bio, c'est bien autre chose que ça.
Seulement une promesse de santé. Félicien, vous, est-ce que vous êtes... On n'a pas... à travers vos questions, je n'arrive pas à déterminer si vous êtes un consommateur de produits bio ou un défiant. Comment vous positionnez par rapport à votre portefeuille d'abord?
Bon, côté prix, on peut s'efforcer. On peut s'efforcer, mais la base, moi, j'ai envie de tenter. C'est un problème de confiance. Quand on sait qu'on achète quelque chose de sain, on ne regarde plus la poche. On se dit, oui, je vais vers la bonne santé, je vais vers quelque chose qui va m'apporter la bonne santé. Bref. Et moi, quand je constate que, par exemple, que ces maisons-là s'ouvrent partout, et que j'ai une crise de confiance en moi.
Vous faites allusion au commerce au petit commerce de détail, aux d'alimentation bio. Merci bio, en tout cas. Merci Félicien pour vos questions. Il faut qu'on parle de l'industrie agroalimentaire, de la grande distribution également, parce que là, c'est vrai qu'on le voit en France et pas seulement. On a à la fois des boutiques bio qui s'ouvrent partout, et puis dans les rayonnages des supermarchés, des hypermarchés, on a de plus en plus de produits labellisés bio. 40% d'ailleurs des boutiques boucher de produits bio, c'est dans la grande distribution. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou pas, Frédéric Danhay?
Le bon côté des choses, c'est que ça amène des gens, une clientèle qui habituellement ne fréquente pas les produits bio, ça les amène à fréquenter les produits bio et à se dire que finalement c'est pour tout le monde. D'ailleurs, on voit que ce qui fait le marché bio dans la grande distribution sont souvent les jeunes parents. Voilà, qui change complètement d'univers sur l'alimentation. Le mauvais côté des choses, c'est que la grande distribution fait de la grande distribution. Donc, ce qu'elle veut fondamentalement,
donc
c'est contrôler
les agriculteurs.
Ah bah oui,
c'est ce que vous dites dans
c'est
votre livre.
C'est raqueter les agriculteurs, c'est faire en sorte
45
que
45 000 personnes face à 4 centrales d'achat qui écoulent
450 000 exploitations,
120 000
agriculteurs face à 4 centrales d'achat, c'est unique dans le monde occidental, hein, faut le savoir. La concentration des centrales d'achat
qui écoule 90% des marchandises des agriculteurs bio.
Qui coule toutes les marchandises, enfin fruits et légumes frais en France. Il faut bien comprendre que ce qui menace la grande distribution, c'est vraiment le bio dans sa philosophie, c'est complètement antinomique avec la grande distribution. Donc la grande distribution n'a pas le choix qu'essayer à tout le moins ou bien de limiter la filière ou alors de la développer, mais selon ses propres critères. Et c'est là où est toute la difficulté. Le bio a besoin de la grande distribution pour continuer à étendre son marché, mais le bio doit...
Et à sensibiliser les consommateurs.
Et à sensibiliser les consommateurs, mais le bio doit conserver absolument la formation du prix. Pour l'instant, c'est lui qui le fait. Ce sont les agriculteurs bio qui le font en général parce que c'est un marché de niche et il n'y a qu'eux qui sont capables de le faire. Attention, dès lors que le marché explosera, le marché continue à exploser, à ce moment-là, la grande distribution pourra, en menaçant par exemple d'aller acheter ailleurs, pourra en revenir sur cette politique des prix qui pour l'instant est heureusement favorable au bio, mais ça va changer.
Comment, en conclusion de l'émission, est-ce qu'on peut donner des conseils? Comment les consommateurs peuvent agir, au-delà de se préoccuper de leur santé, s'intéresser à la planète, aux personnes qui produisent? Comment agir en consommant autrement finalement? Alors que vous venez de nous expliquer depuis 45 minutes que on est sûr de rien, qu'un œuf bio ressemble à un autre œuf bio mais qu'il est produit totalement différemment. Qui veut commencer à répondre là-dessus?
Juste 10 secondes, je ne prendrai pas la parole longtemps. Le bio, c'est vraiment une finalité. On doit commencer par en revenir aux fondamentaux de l'alimentation qui est travailler à partir de produits frais, faire à manger. Voilà. À partir du moment où vous faites à manger, déjà vous améliorez votre santé.
Donc acheter moins de produits transformés.
Moins de produits transformés, des produits frais, des produits qui n'ont pas trop voyagé. Et à partir de là, la réflexion va arriver et vous en arrivera au bio
Binta
de toute
Paradin,
façon.
Vous vendez au contraire des produits transformés. Alors, là, vous avez apporté des paquets, des boîtes.
Il y a transformé et transformé.
C'est tout
ça, c'est sûr. Oui.
Pardon ?
Non, mais ça, c'est sûr. Il y a produits transformés.
Il y a transformé. Parce que il y a... nous, ce qu'on fait, c'est qu'on assemble des ingrédients pour faciliter la vie des consommateurs. Parce que il ne faut pas non plus s'illusionner, les gens ne vont pas se mettre à faire 2 heures de cuisine tous les soirs.
Quand on a 2 heures de trajet par jour pour aller travailler.
Voilà, exactement.
Donc vous vendez de la semoule d'épeautre aux courgettes et olives. Je plonge ça dans l'eau bouillante.
Vous mettez de l'eau bouillante dessus, vous attendez 5 minutes et c'est prêt. Et ce n'est pas à base de produits ultra transformés, donc c'est à base de produits qui sont chacun naturellement produits, sur lesquels il n'y a pas de transformation industrielle. Donc ça vous facilite la vie tout en ayant une assiette qui soit parfaite.
Les ingrédients, semoule d'épeautre, courgettes, donc déshydratées, c'est ça?
Oui.
Oignons, tomates, olives, sel de Guérande, carottes, poireaux, laurier, livèche, poivre, romarin, sauge, thym. Bon, il y a beaucoup d'herbes.
C'est très bien.
Voilà, et nous, on n'ajoute jamais aucun exhausteur de goût, aucun conservateur. On a vraiment ce cahier des charges extrêmement strict. Et c'est pour ça que pour moi, il y a aussi une agroalimentaire nouvelle à réinventer en bio, qui est de proposer des produits qui facilitent la vie des consommateurs, hein, qui rentrent dans le quotidien, mais qui soient absolument incontestables, qui soient à la fois 100% plaisir et 100% bonne conscience. Et nous, c'est vraiment le travail qu'on fait. Et je pense que c'est ça que l'agroalimentaire doit faire demain.
Benoît Biteau, pour ce qui concerne les produits animaux, c'est plus compliqué.
Pas du tout. C'est pas du tout plus compliqué. C'est faire référence à des fondamentaux, parce que finalement, la philosophie de la bio, c'est les fondamentaux. Moi, j'élève des herbivores et je les nourris avec de l'herbe. Ouais. Ça, Monsieur Macron nous propose la révolution
de
l'agriculture.
Mais ça, quand on achète de la viande bio, on n'est pas certain que...
Si,
le cahier des charges. Complètement à 100%
la majorité. En tout cas, la nourriture, en tout cas, elle est surtout bio. Et donc, un producteur bio, après, il y a des choses qui s'imposent à lui. Un producteur bio qui veut nourrir ses animaux avec de la nourriture bio, il est obligé de revenir sur un système herbager, sinon, financièrement, il va pas s'en sortir. Donc, c'est des choses qui s'imposent à lui. Et donc, voilà. Et pour revenir au rôle des consommateurs, moi j'aime bien reprendre une phrase de Coluche, c'était en 78, c'était il y a 40 ans.
On mangeait pas bio à l'époque.
Oui, mais n'empêche que ça, aujourd'hui, sur la filière bio, ça peut s'appliquer. Il disait, si on en achetait plus, ça se vendrait pas. Et donc, en creux, si on veut avancer vers des produits qui satisfassent au-delà de la problématique de la santé, des enjeux plus globaux de climat, de biodiversité, de qualité d'eau, il faut aussi peut-être... arrêter de consommer des produits qu'il ne faut plus consommer si on veut espérer un avenir vivable pour les générations futures. Bah, des produits transformés, du lait comme à la mode Lactalis, c'est scandaleux. Enfin, y compris pour la santé, avec, je ne veux pas être technique, mais des oméga-3 et des oméga-6 avec des rapports inversés qui font que, alors que le lait devrait être un produit anti-inflammatoire, devient un inflammatoire puissant. Mmh. Et donc, voilà, ces produits-là, il faut les bannir des rayons des supermarchés et de tous les produits alimentaires qui finalement, je vais utiliser un mot fort, sont presque des poisons.
Et à l'inverse, d'ailleurs, vous le dites dans votre livre, Frédéric Danhé, il y a à l'heure actuelle des agriculteurs qui produisent en circuit court, de manière très éthique et qui n'ont pas le label bio d'ailleurs.
Pas parce qu'ils ne le veulent pas, parce que ça leur coûterait trop cher.
Oui.
En fait, ils cochent toutes les cases de la philosophie de la bio, mais ils ne cochent pas la bonne case qui permettrait de satisfaire au cahier des charges. Non, le monde agricole est le monde qui change le plus.
Oui. Et c'est dur de s'y retrouver pour le consommateur. Merci en tout cas à vous tous pour vos éclairages. Merci à l'équipe Baptiste Madinier, Sophia Bédard, Romain Dubrac. Je cite le nom de vos ouvrages. Le bio risque de se perdre aux éditions Bûcher-Chastel pour Frédéric Danhé et Benoît Biteau, paysan résistant aux éditions Fayard. Demain, 7 milliards de voisins, conseils et erreurs à éviter quand on cherche du travail, CV, entretien d'embauche, conseils